Alors, c'est un recueil, un livre de recueil qui a été réalisé par Henri Berger, que nous connaissons tous, oui. Qui est un Lourdais, hein, Henri Berger. Ses parents sont hôteliers à Lourdes. Et c'est un petit bouquin qui est un recueil de témoignages. Un recueil de témoignages qui parle de la passion de Mgr Thérèse. Alors, régulièrement, systématiquement, c'est le genre de livre que nous offrons quand on va à Nevers. On a remis à Thierry Bré de la Perrière, à Mère Supérieure, etc. Chaque fois que nous rencontrons un personnage intéressant, nous lui offrons ce petit bouquin parce qu'il dit un peu de choses, ce que nous ne cessons de répéter. Alors, j'ai mis un petit post-it en bas, page 55, pour dire de quel témoignage il s'agit. Alors, ce témoignage, donc, il fait référence, c'est le père Marty, vous voyez, qui a été secrétaire général des sanctuaires à l'époque de Mgr Théas. Voilà. Et le deuxième post-it, en haut du bouquin, page 63, eh bien, revient sur un passage très intéressant où Mgr Théas s'exprime. D'abord, là, j'ai surligné la première phrase où il disait que Lourdes n'a besoin que de vérité, effectivement. On n'a pas besoin de faire du roman feuilleton. La vérité, seule la vérité compte. Et c'est Théas qui avait chargé Laurentin, d'ailleurs, d'écrire l'histoire des apparitions. Il y a eu une bibliographie importante sur ce qui s'est passé à Lourdes, mais la vérité a souvent été galvaudée. Souvent, on a brodé, on a prêté des propos à Bernadette qu'elle n'avait jamais tenu, qu'elle n'avait jamais écrit, etc. Il faut aller à la vérité. Et alors, ce témoignage en bas, là, entre l'échange entre Trochu et Mgr Trochu et Mgr Théas, c'est extrêmement intéressant, parce que Trochu avait écrit un bouquin dans lequel, vous voyez, entre guillemets, la phrase qu'il reprend, voici ma demeure pour toujours, Trochu avait dit ceci, pour dire que Bernadette avait toujours voulu rester au couvent Saint-Gildard de Nevers après sa mort. Et Théas, ayant lu le propos de Trochu, lui répond, vous voyez, au-dessous, les trois dernières phrases, ouais. C'était tiré par les cheveux, Mgr Théas a écrit à Trochu, qui a reconnu que cette interprétation était personnelle et non historique. Voilà, ça c'est la vérité, et ça c'est un propos, un témoignage extrêmement important pour nous. Et si vous tournez la page, vous verrez qu'en 1958, Mgr Théas avait projeté de faire revenir Bernadette Soubirous à Lourdes. C'est important pour nous, pourquoi? Parce que dans l'histoire de Lourdes, il y a eu deux grands évêques. Il y a eu Mgr Laurence, au départ, l'affaire. C'est Mgr Laurence, avec l'impulsion qu'il a donnée, qui a fait de Lourdes ce que nous connaissons. En 1858, Lourdes, le boulevard de la Grotte n'existait pas. Le ruisseau du Lapaca, il coulait sous le pont du cinéma Majestique. Hein. Il n'y avait que des moulins jusqu'au Gave. Une fois franchi la porte du Baus, rue de la Grotte, il n'y avait que des carrières et des prés. L'avenue Pyramale, l'avenue Paradis, tout ça, il n'y avait que des prés. La prairie de la Grotte, il n'y avait que des prés, etc. C'est Laurence qui a fait de Lourdes ce qu'il est devenu. Puisque ce sont, à l'époque, il n'y avait pas de séparation de l'Église et de l'État. Le sabre et le goupillon étaient dans le marché, même dans la mer à cette époque-là, c'était l'Empire. Et c'est la puissance des sanctuaires de l'hiérarchie catholique qui a déterminé ce qu'était l'urbanisation de Lourdes. Non, la rue de la Grotte ne permettait pas aux milliers de pèlerins de venir de descendre correctement. L'élargissement du pont vieux a été financé par les sanctuaires. La création du pont Saint-Michel et le boulevard de la Grotte a été imposée par les sanctuaires à la commune de Lourdes, qui voulait privilégier la descente par rue de la Grotte. Bref, tout ceci, vous le savez. Mm-hmm. Mais donc, l'histoire de Lourdes, elle se résume. C'est Mgr Laurence qui a eu cette politique de maîtrise du foncier, qui a permis d'avoir les sanctuaires, etc. Tout cet espace que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont été Laurence a été visionnaire. Et les missionnaires de la Grotte, le père SMP, etc., une fois que l'évêque des apparitions était décédé, ils sont restés sur cette impulsion. Donc les sanctuaires ont fait de Lourdes ce que nous connaissons aujourd'hui. Et le deuxième grand évêque dans l'histoire de Lourdes, ça a été Mgr Théas, qui pour le centenaire des apparitions, c'est lui qui est le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre de la basilique souterraine. Ça a été quelque chose, il s'en est vu des pierres, il a été mis en difficulté, etc., sur le financement. Je ne rentre pas davantage dans les détails, vous pourrez lire ce bouquin et puis tous les bouquins que vous voulez, sur le calvaire qu'a suivi Mgr Théas pour arriver à ses fins. Et finalement, il a été réhabilité et tout le monde a reconnu la grandeur de l'homme. C'était un homme exceptionnel à tous égards, puisque, c'est rappelé quand vous direz ça, ça a été l'un des rares évêques résistants, puisque en 40, quand la France s'effondre, tout le clergé bascule du côté du maréchal Pétain. Hein, tout le clergé était pétainiste. Il le fut pétainiste, comme tout le monde en 40, mais il s'est rapidement détaché de l'estime qu'il avait pour le maréchal Pétain quand il a pris connaissance de ce qui se passait à l'égard des Juifs. Et il a eu en chair, il a fait lire en chair dans tout son diocèse un texte en indiquant au prêtre du diocèse, et je vous interdis de faire le moindre commentaire. Il décrivait l'inacceptable, il dénonçait l'inacceptable de ce que subissaient les Juifs. Il a été arrêté, et ça n'est fallu de peu qu'il finisse dans les camps de concentration. Heureusement, il a été arrêté juste début juin 1944, c'était déjà l'époque du débarquement. Et le train dans lequel il devait partir, donc en Allemagne, avec les 400 ou 500 prisonniers avec lesquels il était, a été brûlé justement, fort heureusement, par les résistants. Et ce n'est qu'à cela qu'il a dû le sauver sa vie. Mais comme il était l'un des rares avec quelques autres évêques, on les comptait sur le doigt d'une main, à s'être exprimé dans ce sens-là, à la libération, il a servi d'intermédiaire entre le général de Gaulle et le pape. Et Charles de Gaulle l'avait missionné pour aller voir le pape en lui disant qu'il fallait changer le nonce apostolique parce que de Gaulle n'acceptait pas d'avoir comme interlocuteur. Tous les ambassadeurs ont été changés à ce moment-là de tous les pays parce que de Gaulle n'acceptait pas d'avoir en face de lui des ambassadeurs ou fût-ce un nonce apostolique qui avait pactisé avec Pétain. Donc vous voyez alors pour moi qui suis gaulliste, le fait en plus de voir cette affinité avec Théas, quelque chose d'extraordinaire. Je dirais juste un témoignage personnel. J'ai été élu conseiller général de ce territoire où sont les sanctuaires en 1976. Et ma première visite après l'élection a été auprès de Mgr Théas, qui n'était plus évêque de Lourdes à ce moment-là. Et il est décédé l'année après, j'ai été élu en 1976, il est décédé en 1977. Et je lui ai rendu visite, l'une de mes premières visites après cette élection, parce qu'il y avait les sanctuaires dans ce canton, parce qu'il avait été l'évêque éminent que je viens de vous dire. Il était retiré à Bétharram, à côté des sanctuaires de Bétharram. Sur ces maisons-là qui sont le long du Gave, de l'autre côté, vous avez la route qui rentre dans le village, à droite vous avez le Gave, et il y a une série de maisons, là il était retiré là. Vraiment, il n'était pas dans le luxe ni rien, mais il a fini, quand il a quitté Lourdes, il est parti avec sa valise, c'est tout simplement. Et il était dans une austérité totale. Et donc, par déférence, et parce que j'avais une très grande estime pour Théas, la première visite que je lui ai rendue, c'est pour lui, c'est à lui. Et donc, j'ai été très heureux de revoir que Henri Berger mettait en exergue donc, le rôle historique, d'abord. Il en parle, Berger, du rôle historique pendant la guerre et la fin de la guerre de Théas. Et surtout, le témoignage ou le passage où Théas dit la vérité. Lourdes n'a besoin que de vérité. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de testament, il n'y a jamais rien eu, au contraire. Il tacle son collègue avec Trochu en lui disant non, et Trochu reconnaît que c'était une interprétation littéraire qu'il avait, mais pas historique. Voilà. Donc ça, c'était important. C'était important. Voilà. Alors, ça répond, en fait, à ces éternelles interrogations qui sont reprises d'ailleurs par Thierry Brec de la Perrière, ou plutôt pas exactement par Thierry Brec de la Perrière, mais par un pèlerin.
Des pèlerins,
alors ouais. Je dirais que c'est un drôle de pèlerin, celui qui a dit ça. Hein. C'est un drôle de pèlerin. Parce que d'abord, un pèlerin, Philippe, bon d'accord, un pèlerin, qui dit que Bernadette est venue, ça s'est repris aussi bien par Thierry Brec de la Perrière que par ce pèlerin. Philippe, puisque c'est Philippe le pèlerin qui dit, elle a écrit qu'elle ne reviendrait pas à Lourdes. Bon, elle a écrit qu'elle ne reviendrait pas à Lourdes. Qui c'est ce Philippe pèlerin? Mais Théas, il dit qu'effectivement, elle n'a jamais dit qu'elle voulait rester à Nevers. Donc c'est une idée, il faut tordre le cou à cette idée, il faut tordre le cou à cette idée en revenir à la réalité historique. Voilà. Jamais elle n'a dit nulle part qu'elle voulait rester à Nevers, jamais. Et donc le témoignage de Letta, c'est très important. Quant à dire qu'elle est venue s'effacer, se cacher à Nevers. Imaginez qui était Bernadette Soubirous, une fillette de 14 ans qui ne savait ni lire ni écrire, qui parlait en patois lorsque les apparitions ont eu lieu. Comment peut-on imaginer que Bernadette Soubirous ait pu décider de son sort, etc. Si elle avait pu décider, elle ne serait jamais venue à Nevers. Elle est venue à Nevers par hasard. Pourquoi ? Parce que c'était la seule congrégation qui était présente à Lourdes à ce moment-là. Elle aurait souhaité être anglaise, par exemple, etc. Tout ça est connu, c'est l'histoire. Mais elle voulait rester à proximité des Pyrénées. Donc elle est partie contrainte et forcée parce qu'il fallait, à partir du moment où Mgr Laurence a signé le mandement déclarant réel et authentique les apparitions, Bernadette a été dépossédée de toute décision. Elle est passée sous la tutelle de la hiérarchie catholique et de l'évêque. Et tout a été décidé pour elle. Et dernier élément à ce sujet, elle a été finalement à Nevers, où chacun sait qu'elle n'a pas été très heureuse. D'ailleurs, quand elle est arrivée à Nevers, dans la semaine qui a suivi, c'est historique ça aussi, on l'a extrêmement ici, on pensait qu'elle allait mourir dans les jours immédiats qui ont suivi son arrivée à Nevers. Donc elle n'a pas été heureuse à Nevers. Donc elle est partie là-bas parce que tout a été décidé, et tout s'est décidé à son insu. Et puis, à Nevers, c'est quand même aussi un paradoxe, c'est pas discourtois de le dire. Elle a été la seule religieuse sœur de Nevers à être cloîtrée dans une congrégation qui n'était pas une congrégation de sœurs cloîtrées. C'était ça la réalité. Tout était filtré, le courrier qu'elle recevait, qu'elle envoyait, etc. Les visites, quand un évêque ou autre voulait rencontrer, il fallait qu'il demande la permission à la mère supérieure. Elle a été la seule sœur de Nevers cloîtrée dans une congrégation qui ne l'était pas. Donc, dire la vérité n'est discourtois à l'égard de personne. Voilà ce que je souhaitais dire personnellement. On ne s'exprime pas souvent, mais depuis août de 2015, ça permettait que nous arrêtions de poser ça sur ces aspects du retour de Bernadette. Donc, vous le savez, vous pouvez le constater, notre détermination n'a jamais été aussi forte qu'à présent. La question n'est pas de savoir quand Bernadette reviendra, si Bernadette reviendra à Lourdes, pardon pour le lapsus, mais quand elle reviendra à Lourdes. Voilà.